Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie pour l'émission L'Oreille sur l'actu qui vous est proposée par Shana Oudjani, Bastien Lemieux et moi qui suis l'animatrice aujourd'hui, Lilou Saint-Viteux. On remercie Hugo Pépitone à la technique qui vous permet d'écouter cette émission aujourd'hui. Et je vous propose tout de suite, pour bien commencer l'émission, de parler de l'Europe et plus précisément comment s'organisent nos élections européennes. Pour cela, je suis allée vous poser la question et voici ce qu'on m'a répondu.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Joël.
Est-ce que vous comprenez le fonctionnement des élections européennes ?
Non, pas du tout. Je m'y suis jamais intéressé.
Pourquoi ?
Parce qu'on est bien loin de tout ça et qu'on en subit plutôt les conséquences qu'on en bénéficie.
C'est quoi subir les conséquences pour vous ?
Bah, subir les conséquences, c'est que, je pense que les décisions devraient être prises au niveau le plus bas et pas au niveau le plus haut, hein. Ça pose problème. Ça correspond pas beaucoup à la réalité.
C'est quoi la réalité pour vous?
Bah, la réalité, c'est les difficultés quotidiennes, les charges à payer, le fait de pouvoir prendre de profiter de la vie, etc. et tout, on est bien loin de tout ça.
Et vous ne pensez pas que les élections européennes peuvent jouer sur ça?
Moi, je trouve qu'actuellement, l'Europe complexifie les organisations et tout, et que ça fait, des dizaines d'années qu'elle tente de s'organiser. Et que, on n'en voit jamais les influences positives, quoi. Moi, je vais pas voter pour des gens que je ne connais pas. Donc, ces gens-là, je les connais pas. C'est une nouvelle classe d'oligarques. Et donc, ces gens-là, tant que je les connaîtrai pas, j'irai pas voter pour eux, quoi. Je vote pas blanc.
Bon, ben, merci beaucoup.
Alors, tout d'abord, petit rappel dans le temps, les pays européens vont aller voter fin mai, et parmi eux, la France, qui elle votera le 26. Et les électeurs, c'est nous, les Français. Nous voterons ou non pour nos députés européens, ceux qui nous représenteront au Parlement européen pendant 5 ans, donc autant bien les choisir. Contrairement aux élections présidentielles, dans ce cas, on ne vote pas pour une personne, on vote pour une liste de personnes, 79 en tout, et autant d'hommes que de femmes. Les listes se veulent paritaires. 79, ce n'est pas un chiffre pris au hasard, c'est le nombre de sièges auxquels la France a le droit. D'ailleurs, petite précision, tous les pays qui ont leur place au Parlement européen n'ont pas le même nombre de sièges. On les attribue selon l'importance de la population de chaque pays. Pour la France, c'est donc 79. Pour espérer être élu, il y a bien sûr des règles. Par exemple, le cumul des fonctions est impossible. C'est pour cela que nos futurs députés européens démissionnent de leur ancien poste quand ils annoncent participer aux élections. En France, on compte 33 listes candidates. Toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix aux élections obtiendront des sièges au Parlement européen. Ensuite, ça se joue à la proportionnelle. Plus tu as de voix, plus tu fais entrer de députés dans ta liste. Pour finir avec les élections européennes, je tiens à signaler qu'elles subissent un taux d'abstention record. Aux dernières en date, seulement 42% des votants possibles se seraient déplacés. La cause serait-elle qu'elles sont assez méconnues ? Shana, Bastien, un avis sur ça ?
Je pense que ce n'est pas une histoire d'être des élections connues ou pas. Je pense que c'est surtout l'importance que les gens y mettent dedans, puisque beaucoup de gens se disent qu'ils n'ont pas à se déplacer pour cela, que c'est inutile de se déplacer, parce que voter pour des élections européennes ne changera pas grand-chose et ce n'est pas la priorité à l'instar d'élections présidentielles, par exemple.
Bastien, un mot ?
Déjà, bonjour à tous. Alors, moi, je pense que c'est une élection qu'on pense non importante et pourtant, elle est... C'est assez flou, mais les gens pensent que l'Europe ne prend pas assez de décisions, alors que c'est faux, mais c'est juste qu'elles sont méconnues, qu'on en parle très peu. Et pourtant, elles agissent sur l'agriculture, sur l'environnement, même sur l'économie de tous les pays de l'Union. Et c'est vrai qu'on peut voir aussi les élections européennes, excusez-moi, comme une sorte de sanction aux élections présidentielles. Ça veut dire que les gens vont se déplacer juste pour sanctionner, on va dire, la politique du pays, sauf que la politique du pays n'a rien à voir avec la politique européenne. Donc c'est un choix assez terrible que d'aller voter pour sanctionner par exemple la République en marche, alors que ça n'a rien à voir entre la présidentielle et l'européenne.
Est-ce que c'est que ça ? Alors dans l'audio on a écouté, la personne dit qu'elle ne se sent pas représentée par les députés, que c'est des personnes qu'elle ne connaît pas, et qu'elle a l'impression que l'Europe en elle-même, pas le parti qui dirige la France, mais l'Europe en elle-même, est un concept qui ramène plus de complications qu'autre chose. Vous en pensez quoi, vous ?
Après, si on ne pas connaître une personne ne veut pas dire qu'il est incompétent.
Oui, mais quand on les connaît pas, on peut pas voter correctement.
Exactement.
Il faut regarder.
Je pense que le rôle des élections européennes, le rôle est méconnu. Après, nous savons, une grande partie de la population sait que les élections européennes existent, mais le rôle et les décisions qui sont prises par les européennes sont un peu méconnues. Et les gens ne savent pas pour qui ils votent, comme il a été dit dans l'audio. Ils ne savent pas pour qui ils votent, donc ils ne savent pas pourquoi ils votent.
Après, il y a aussi ça, et puis il y a aussi le fait que certains ne sont pas pro-européens, tout simplement, parce que l'Europe en elle-même ne leur plaît pas. Des gens depuis longtemps, les partis communistes, etc., ou l'extrême droite, n'étaient pas pro-européens.
Mais l'extrême droite a fait une petite marche arrière en voyant le Brexit et les conséquences néfastes sur l'économie que cela procure.
Oui, c'est possible. Alors,
on va dire que le Royaume-Uni a montré un bel exemple de ce que c'est que de vouloir sortir de l'Europe, et je pense qu'aucun pays veut vivre la même situation à l'heure actuelle.
Je ne sais pas, peut-être, on verra. Je pense qu'il y a toujours des gens un peu soit fous pour certains, soit dans le futur. Mais je vous propose de faire une première pause musicale, et c'est donc Shanna qui va nous proposer une musique. Alors Shanna, qu'as-tu choisi ?
Oui, effectivement, j'ai choisi un titre de Radiohead. Radiohead est un groupe de rock britannique, originaire d'Abington, dans le Oxfordshire, j'espère que je le dis bien. C'est une région.
Tu le prononces très bien.
Merci, Bastien. C'est une région du Royaume-Uni. Ce groupe a été formé en 1985 et il est donc composé de Tom York, des frères Johnny Greenwood et Colin Greenwood, ainsi que Ed O'Brien et Phil Selway. Formé au lycée, le groupe signe avec EMI en 1991 et sort son premier single, Creep, en 1992.
Quel classique.
When you ever fall, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a little. What the hell am I doing here? I don't belong here. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow.
whatever you want. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
On apprécie toujours autant cette musique.
J'adore.
Alors je vous propose de parler rugby avec Bastien.
Et oui, c'est un coup de théâtre qui dure déjà plusieurs semaines. Pour une question de quelques centimètres, Toulouse voit sa participation à la Coupe du Monde 2023 de rugby en France compromise. Toulouse, ville de rugby, Toulouse équipe la plus titrée de France, ne verra peut-être pas le mondial sur ses terres. Une situation impensable et terrible pour tous les Toulousains.
Moi, ça m'embête donc que Toulouse puisse pas accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023. Parce que bah, Toulouse, c'est, on peut dire, la capitale du rugby en France. Enfin, le Stade Toulousain, c'est le club le plus titré français, voire même européen. Enfin, c'est une institution dans la ville, et le rugby, c'est, ça fait partie de la culture de Toulouse. Et ne savoir qu'il n'y a pas de match pour la Coupe du Monde, c'est quand même bien dommage.
Les deux semaines qui viennent s'annoncent donc décisives. Shana, Lilou, vous suivez le rugby ?
Pas du tout.
Franchement, je vais dire non. Si tu veux une réponse franche, Bastien.
Mais est-ce que ça vous taquine pas un peu le fait que Toulouse puisse ne pas accueillir la Coupe du Monde rugby alors qu'on nous ravage du rugby tout le temps
c'est
ici
vrai que c'est
dans cette
la ville.
Ville
du rugby, Toulouse. Ah oui. Mais bon, je sais pas. Bon, c'est des questions techniques, c'est ça.
C'est ça. En fait, c'est pour quelques centimètres, donc le stade n'est pas assez grand.
Quelques centimètres, il devrait pas trop chipoter.
C'est vrai que après, bien sûr,
pour 75 centimètres,
les normes précis. Doivent être respectées. Mais pour 75 centimètres,
ça fait la différence.
Mince, quoi.
Et mais aussi se priver de la Coupe du Monde de rugby, qui est quelque chose d'assez conséquent, un événement assez conséquent. Je trouve que c'est un peu triste.
Il faut aussi noter qu'il y aura une réunion avec la RWC, donc la Rugby World Cup, le 16 mai pour avoir une décision finale pour savoir si Toulouse va accueillir la Coupe du Monde de rugby ou pas.
Ben, ça me surprend, je pensais que Bastien était plus foot que rugby.
Je suis plus foot, mais quand même.
Mais tu as choisi le sport parce que c'est ta passion.
Ah, c'est la tradition, quoi.
Bon, alors je vous propose aussi d'écouter Shana en national.
Oui.
Alors, c'est parti.
Alors, moi, je vais parler de l'Assemblée nationale qui interdit la pêche électrique. Donc, on sait que la pratique est très critiquée et peu utilisée en France. L'Assemblée nationale a voté jeudi soir à l'unanimité l'interdiction de la pêche électrique dans les eaux territoriales françaises, anticipant l'interdiction générale dans l'Union européenne en 2021. Il s'agissait d'une proposition de loi portée par l'élu du Finistère Erwan Balanan, qui fait partie du MoDem, et co-signée par 135 députés de tous bords, qui a reçu le soutien du gouvernement. Elle doit désormais être validée par le Sénat pour que l'interdiction entre en application, dans la limite fixée des 12 000 au large des côtes, soit 22,2 km. La pêche électrique, jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins, est peu utilisée en France, au contraire des Pays-Bas qui en sont les principaux participants en Europe. À l'issue d'un long cheminement, un accord a été trouvé mi-février entre les négociateurs du Parlement européen et des États membres pour interdire cette pratique à partir de l'été 2021, mais laissant la possibilité aux États de l'interdire dès à présent dans leurs eaux territoriales. Cet accord a été entériné par le Parlement européen mi-avril, théoriquement interdit depuis 1998. Mais il y a toujours un mais. Le ministère de l'Agriculture avait indiqué qu'il anticiperait l'interdiction dans les eaux françaises. Ce qu'a confirmé dans l'hémicycle Didier Guillaume, dans les prochaines semaines, le gouvernement va prendre un arrêté, a assuré le ministre tout en soutenant le vote de l'Assemblée, point fort pour notre pays. La pêche électrique consiste à envoyer depuis un chalut des impulsions électriques dans le sédiment pour y capturer des poissons vivants au fond des mers. Elle est interdite en Europe depuis 1998, mais la Commission européenne permettrait sa pratique depuis 2006 dans le cadre d'un régime dérogatoire exceptionnel. Lilou, Bastien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Des fans de pêche ?
J'adore la pêche.
Pas vraiment, mais ce qui se passe sur Terre et dans les fonds marins.
Non, oui, il y a une catastrophe écologique, voilà. Plutôt sur l'écosystème.
Je trouve c'est important d'en parler.
Oui, déjà, on voit le nombre de poissons qui diminue fortement. Et comme on connaît bien la chaîne alimentaire, certains poissons dépendent d'autres poissons. Et si on chasse des poissons, il y a par exemple les squales ou les baleines qui risquent aussi de disparaître. Et ça serait une catastrophe. On pourrait perdre une partie très conséquente de l'écosystème marin.
Bien sûr. Nous sommes à une période
où la pêche de masse.
Où la pêche tue des espèces d'animaux, enfin, et surtout de poissons. Du coup, c'est quelque chose qui bouleverse l'équilibre, et comme tu l'as dit, de la flore et de la faune marine. Du coup, c'est quelque chose de grave, et les décisions et les choix que nous aurions dû prendre il y a 30 ans n'ont pas été prises. Les mesures n'ont pas été prises. Et maintenant, c'est là où il faut s'arrêter. C'est pour ça que l'Assemblée nationale fait le bon choix d'arrêter la pêche. Et voilà.
Et pas que la pêche, d'ailleurs. T'as un dernier, quelque chose à dire ?
J'allais dire que la pêche électrique, c'est un point positif. Mais il y a aussi tout ce qui est pêche du thon, qui est véritablement scandaleuse, puisque on prend des tonnes de thon et on peut aussi prendre d'autres. En fait, c'est avec des gros filets, vous voyez, et on les prend. Et il y a aussi d'autres poissons qui viennent dedans. Sauf que le problème, c'est que les poissons, on les rejette pas dans l'eau, hein, parce que bon, flemme un petit peu quand on est thonier comme ça un plein temps et qu'on doit faire des tonnes et des tonnes de poissons dans la journée et tout
et
ça.
Et des chiffres d'affaires.
C'est ça. Et du coup, on détruit d'autres espèces en n'en chassant qu'une. Et aussi, bon, il y a un nombre trop important de poissons pêchés. Et on a déjà vu que la nature pouvait se régénérer. Si on laissait une petite pause, pas une pause conséquente, mais une pause où on diminue la pratique de pêche dans les quelques années à venir, on pourrait revenir quelques années plus tard et repêcher pareil que maintenant.
Oui, mais est-ce que les entreprises sont prêtes à faire
ça? Non, c'est ça. Il y a une question d'argent, il y a une question de nourriture parce que la population augmente
alors
très vite, donc c'est un problème.
Je vous propose une
grave.
Pause musicale et moi, mon sujet après, c'est justement ça. C'est pas que la pêche et je vous parlerai d'environnement, moi, dans mon sujet international. Alors, tout d'abord, une pause musicale, c'est Bastien qui nous la propose.
Alors, j'ai choisi de vous présenter LSD. Alors, qu'est-ce que c'est LSD? C'est un groupe composé de Labyrinth, Sia et Diplo, ce qui fait le nom LSD. Ils ont voulu faire un jeu de mots, c'est rigolo, voilà. Le titre s'appelle Genius, il est en featuring avec, enfin c'est un remix qui est en featuring avec Lil Wayne, qui je trouve sort un couplet incroyable. Ce morceau parle d'un homme fou, d'une femme, et qui se considère comme un génie pour aimer une femme comme ça, vu qu'elle n'attire pas vraiment grand amour et grand respect.
Wayne. I'm a genius under pressure, no question, I'm really special. Upper echelon when I bless you, molest you with intellectual. It's a pleasure, it gets sexual. Women limit complexion, quick connections, then ejections. My love is so ambidextrous. I'm a genius in perfection, a specialist in the exorcist. With excellence forever, just necklaces for irrelevance. In the room, I'm the elephant, spelling it for the hell of it. A, B, C, D, R, U, G, H, I, J, K, L, S, D.
Oh my God, baby, baby, don't you see?
Genius, baby. Genius, baby. See ya.
Aujourd'hui en international, je vais vous parler environnement et plus précisément, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui cette année, nous vivons à crédit. Alors quand je vous parle de crédit, je ne vous parle pas de votre nouvelle maison, mais plutôt épuisement des ressources. Pour cela, je suis allée vous poser des questions dans la rue et voici ce que vous m'avez répondu.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Annie.
Alors Annie, aujourd'hui, on a eu un rapport de l'association WWF qui annonce que à partir de vendredi, ce vendredi-là, l'Union européenne vivra à crédit. C'est un rapport qui apparaît chaque année. Chaque année, on vit à crédit de plus en plus tôt. Vous, ça vous fait ressentir quoi ?
Ben, qu'il est temps qu'on se préoccupe de tout ça, réellement, parce que pour le moment, ça nous touche pas encore trop en apparence. Enfin, je veux dire par là que ce qu'on a besoin, on va l'acheter, on a ce qu'il faut, mais il y a sans doute des pays qui sont beaucoup plus ennuyés par ça que nous, et je pense qu'il va falloir trouver des solutions rapidement, parce que ça, il y a un moment, on va le ressentir aussi, et que c'est pas parce que ça nous concerne pas tout de suite qu'il faut pas s'en charger, ça va être nos enfants et déjà d'autres qui doivent être touchés, donc il faut s'en occuper réellement.
Vous avez pas peur un jour de plus avoir de quoi manger ?
Non, je suis pas inquiète pour ça, pour moi, c'est plus pour mes enfants, pour les générations à venir. Je pense que dans des pays, pas de l'Europe, mais d'autres pays qui sont certainement plus touchés que nous, et c'est vrai que ça fait des années qu'on en entend parler. Je me concentre pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu catastrophique tout ce qui arrive. On en est la cause, donc c'est un peu gênant. Mais...
Vous avez l'impression que le gouvernement fait ce qu'il faut ?
Non. Non, puisqu'il nous vend les cochonneries, le gouvernement, ça va pas l'arranger si on se met tous à vouloir des choses saines, des choses bonnes et sans cochonnerie dedans, ben on s'occupe plus de ce que l'État va nous fournir.
Vous pensez qu'on consomme trop aussi peut-être ?
Bien sûr, on est une population de gros. faut dire ce qui est. Les gens mangent du sel, du sucre, plein de cochonneries et c'est normal. Et ils s'empiffrent, alors que d'autres ben mangent pas. Se limiter, oui, on est gourmands, nous les Français, mais en règle générale, mais on peut se limiter, oui, c'est sûr. On pourrait manger un peu moins et faire plus attention à ce qu'on mange, mais je dis ça, mais moi je suis gourmande aussi, donc.
Bon, bah merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Pêche, agriculture, sylviculture, construction, empreinte carbone. Si l'humanité consommait autant que les Européens, elle aurait besoin de 2,8 planètes bleues. Alors, c'est pas un sujet très drôle, mais c'est l'audio avant qui m'a fait rire, j'avoue. Alors, cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai sortie, mais plutôt un rapport de WWF, ou World Wide Fund for Nature. On pardonne mon superbe accent anglais. Cela signifie que si le monde entier vivait comme nous, l'humanité aurait consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Mais ce n'est pas la seule chose inquiétante selon ce rapport. Ce jour de dépassement tomberait plutôt chaque année, signe que cela ne va pas en s'améliorant. D'autres chiffres, l'UE c'est 7% de la population, et cette population consommerait environ 20% de la biocapacité de la Terre à elle toute seule. Toujours selon WWF, nous empruntons d'année en année des ressources à la Terre, mais aussi aux autres pays et aux générations futures. La question est, peut-on toujours, même encore aujourd'hui, rembourser cet emprunt? Alors Shana, Bastien, je vous pose la question, est-ce que ce rapport vous inquiète ou non?
Évidemment.
C'est très inquiétant, oui, bien sûr, parce que le fait de vivre à crédit aussi tôt dans l'année et que chaque année, c'est de plus en plus tôt, c'est très grave.
Il faut savoir que nous dépendons de la Terre, mais ça, je pense que on ne le comprend toujours pas.
Vu que nous y vivons.
Non, mais c'est très sérieux. Je pense qu'on ne se rend pas compte que la Terre, elle peut pas dépasser ses limites. Elle a ses limites. Ce qui fait que on va arriver, ça va dépasser encore. On va arriver, janvier, on n'a plus rien, et au final, on va prendre sur les autres années, on va avoir deux années de retard, ça va être catastrophique. Et j'ai pas envie d'être très sombre, mais faut dire que on peut vivre l'apocalypse, quoi.
Si on tout simplement. L'audio, alors bien sûr, c'était dit sur le ton de l'humour. Nous, les Français, on est très gourmands. Et
pas que les Français.
Toute l'Europe, visiblement, vu qu'on mange plus qu'on ne le devrait. Et je trouve ça plutôt drôle de savoir qu'on est conscient, enfin de plus en plus en tout cas, qu'on est conscient qu'on manque de ressources, mais que pourtant, on aime beaucoup trop la nourriture pour s'en passer.
Mais comment changer? C'est ça la question. Comment changer? Personne n'a la réponse. Et peut-être personne ne l'aura. Et ça sera trop tard.
C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions, prendre des mesures, écouter traverser le mardi pour...
Avec Morito.
Avec Morito.
pour essayer d'avoir de trouver des solutions. Parce que si nous savons comment changer, nous savons comment faire des efforts, mais personne ne veut faire des efforts.
Non, mais on a un stade où... on ne sait pas quelle décision prendre. Personne ne sait quelle décision prendre.
Je disais que le rapport de WWF, justement, disait qu'il y a des solutions. Elles sont, on peut les réaliser. Elles sont là. On en a. Bien sûr. Peut toujours agir. C'est pas trop tard encore. Mais il faut le faire maintenant. Tout de suite.
Nous avons déjà 30 ans de retard. Des décisions qui auraient dû être prises, il y a 30 ans. Qui n'ont pas été prises. Et maintenant, nous en payons les pots cassés.
C'est ça.
Une prise d'information trop tardive aussi.
Que les informations, on les avait.
On cassait les pots, comme tu dis, mais aussi on les cachait. Pas que la population le voit. Dans les années 50, on était là, la pollution, c'est pas très grave et tout, ça va aller.
Nanana. Oui, les lobbies.
Mais au final, voilà la situation où on est aujourd'hui parce que personne n'a dit aux gens que ce qu'ils faisaient est mal.
Exactement. Et plus la situation devient grave, plus les gens commencent à s'y intéresser. Maintenant, chaque personne...
On est tous concernés en soi.
Voilà, chaque personne est concernée, chaque personne le sait. Mais de là à prendre
Ça fait très longtemps que des associations comme WWF luttent et préviennent que la date va être dépassée. C'est juste que les lobbies et le gouvernement, sûrement, enfin, certaines personnes ont été responsables du fait que ça soit caché.
Puis,
c'était volontaire parce que tout ça c'est très commercial aussi, faut le savoir. Faire consommer les gens, ça fait vivre les grandes entreprises et les petites. Et comment on fait marcher l'économie du pays quand elle repose sur ça et que la planète va mal, beaucoup ont choisi de faire fonctionner les entreprises plutôt que la planète
et de fermer les yeux.
Puis il faut se poser une question aussi, qu'on est légitime de se poser, c'est qu'est-ce que peut faire une association comme ça à but non lucratif face à 9 milliards de personnes en 2050. Il y a 9 milliards. C'est déjà les ressources, elles vont être très dures à trouver, mais justement là on va être dans un choix où il faut faire pour la planète, mais on va devoir, je pense, laisser des gens sur le côté. Parce que...
Non, pas encore exactement, mais bientôt, oui, sûrement.
Et oui, bientôt, dans les choses que je dis, dans les années à venir, il y aura des gens qui sont mis sous le côté pour, on va dire, un acte désespéré d'environnement pour sauver la planète. Je pense que on est dans une impasse et il va y avoir de la souffrance dans tous les cas.
On va espérer que non, même si c'est...
Voilà, bonne journée.
Bien parti, oui, c'est vrai que c'est pas très positif. Un dernier mot peut-être.
Pas très joyeux.
Un mot plus positif pour la fin. Que vous adorez Esprit Occitanie, peut-être.
Eh bien, Toulouse fait de très bonnes saucisses. Voilà.
Merci, Bastien.
C'est le mot positif.
D'ailleurs, ça me fait rire parce que Shana et moi, on a choisi nos sujets indépendamment, mais ils se regroupent
ils
pas
se
mal.
Croisent,
hein.
Ils se regroupent, ils se ressemblent.
Parce que c'est un sujet d'environnement et l'environnement est sur toutes les tables maintenant.
Exactement, c'est une preuve que nous devons nous en occuper.
On se moquait des écolos, mais maintenant, on se dit « Ah ouais, ils avaient raison quand même hein. ».
Mais ouais, mais c'est ça, c'est les entreprises qui cachent tout ça. Bon alors, l'émission touche déjà à sa fin.
Oh non!
Malheureusement. On sait qu'on a très envie de rester. Et merci à Hugo Pépiton, à la technique, et à Shana et Bastien d'être présents aujourd'hui. Au revoir.
Avec plaisir, Lilou. Au revoir.
Au revoir.